bienvenue à notre invité dans une émission passionnément vôtre que j'ai le plaisir d'accueillir. Daniel Berthet, bonjour.
Bonsoir. Bonsoir, Odile. Bonsoir, Fréquence Mistral. Juste un petit mot en arrivant.
Oui.
J'ai vu qu'en arrivant, il y avait une pétition pour la réactivation de la ligne ferroviaire. J'aurais bien voulu qu'il y ait une pétition aussi pour augmenter la subvention à Fréquence Mistral de la part de la mairie de Digne. Parce que j'ai entendu qu'il n'y avait pas beaucoup de subventions pour Fréquence Mistral. Alors
merci.
Je demande à monsieur le maire d'augmenter la subvention pour Fréquence Mistral parce qu'on a besoin d'une petite radio associative comme celle-là.
Ah ben, je suis vraiment contente de vous avoir invité aujourd'hui.
Ça commence bien.
Merci, ça commence bien. On va passer une bonne heure en votre compagnie aujourd'hui. Alors, ben, Daniel Berthet, vous êtes là, bien sûr, parce que vous êtes écrivain depuis peu. Et puis, il y a plein d'autres choses aussi que vous allez nous raconter, puisque vous êtes très investi par rapport à la Palestine aussi. Et le troisième sujet, c'était le secours populaire et étudiants solidaires.
Oui ? Tout à fait, Odile, oui.
On parlera de tout ça. Alors, on commence par votre parcours. Vous êtes professeur ?
Je suis professeur
de gestion. Dans le micro.
Je suis professeur de gestion. Et je suis arrivé à Digne il y a une trentaine d'années. Ma famille n'est pas d'ici. Mon arbre généalogique, il a ses racines dans la Franche-Comté. Et mon frère, qui fait des recherches en généalogie, est remonté dans le temps et est remonté jusqu'à à peu près 1650 pour retrouver nos ancêtres. C'est dans un chapelet de village du Jura. Et jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, l'arbre est resté dans le Jura. Et puis, il y a eu des coups de vent à partir de 1960-1970. Et puis, on s'est dispersé un petit peu. Et moi, le vent m'a amené jusqu'à Digne-les-Bains.
Donc, il y a combien d'années ?
Il y a une trentaine d'années. J'ose pas. C'est loin déjà.
C'est loin déjà.
Donc, j'ai pris des petites racines dans les Alpes de Haute-Provence, mais j'ai pas l'impression encore d'avoir des grandes racines comme on les avait dans la Franche-Comté. Mais je suis content quand même d'être resté ici. Il y a eu un parcours intéressant dans cette petite ville et la région est intéressante.
Et vous enseignez toujours ?
J'enseigne toujours. J'ai encore un an d'enseignement à faire et donc je commence à préparer la retraite. C'est pour ça que j'aime bien manier un petit peu la plume. Pour m'entraîner. Je ne me considère pas encore comme un écrivain, loin de là. Je dis que je suis un artisan romancier parce que le moment, je suis en auto-édition. Et donc, je fais tout, de l'écriture jusqu'à la diffusion. Mais dans l'écriture, c'est un véritable chantier quand on attaque un roman. Donc, c'est vraiment un métier d'artisan.
C'est une jolie expression, artisan romancier.
Ah, j'aime beaucoup.
Qu'est-ce que je voulais vous demander ? Donc, bien sûr, ça fait quelques années, pas très longtemps, que vous vous êtes mis à l'écriture ou vous avez toujours écrit ?
Non, j'ai jamais écrit, justement. C'est pour ça que je ne me sens pas du tout écrivain. Parce qu'un écrivain, je crois d'abord qu'il a ça dans le sang. Il écrit depuis tout jeune et puis il vit un peu de sa plume. Ce n'est pas mon cas, bien entendu. Ensuite, il a une culture littéraire. Moi, je considère que je n'ai pas de culture littéraire. Et puis, il a des relations dans le monde littéraire. Je n'ai pas de relations dans le monde littéraire. Donc, je suis très, très loin d'être un écrivain. Je suis juste un petit artisan du porte-plume.
Donc, vous avez déjà écrit deux livres.
Oui.
Et ce sera le troisième.
Et ce sera le troisième, oui. Et il va sortir au mois de janvier. Et je suis très content parce que je travaille en collaboration avec le Secours Populaire et puis avec aussi une association d'étudiants solidaires.
Est-ce qu'on peut nommer les deux premiers livres ou
Oui, bien sûr. Oui. Le premier livre s'appelle « Il faut sauver le Saint-Esprit ». Ce n'est pas une histoire de religion, loin de là. C'est au contraire une histoire de dérision. Ça porte sur une erreur judiciaire dans une petite ville qui s'appelle Bléon en Provence.
Oui.
Et puis, c'est traité avec beaucoup de dérision, un problème extrêmement grave qui porte sur une erreur judiciaire.
Et donc c'est le premier livre que vous avez écrit ?
C'est le premier livre que j'ai écrit en collaboration avec mon fils qui s'appelle Karim Berthet et qui avait besoin d'écrire une histoire difficile et où on a fait une analyse d'un dossier judiciaire complet, une analyse complète, pardon, et On a travaillé là-dessus avec beaucoup d'acharnement pour démontrer toute l'hypocrisie d'un système judiciaire qui ne veut jamais se tromper et qui ne veut jamais reconnaître ses erreurs.
Donc c'est parti un peu d'une rage, c'est ce besoin d'un besoin d'écrire, de rendre
plus,
justice.
Plus qu'une rage, une plus colère, une révolte, colère. Une haine, parce que je pense que tous les gens qui subissent une erreur judiciaire, tous ils le savent, tous ceux qui sont passés par là souffrent beaucoup. Et pour se relever d'une erreur judiciaire, c'est extrêmement difficile, d'autant plus que quand on subit une erreur judiciaire, c'est toute la société qui vous viole moralement. Donc c'est extrêmement difficile de s'en sortir. Et donc il n'est plus question d'aller voir des psychologues, puisque les psychologues font partie du système. Donc on est un peu révolté contre les psychologues. Donc on a besoin de passer par les mots pour... faire rejaillir un petit peu cette colère. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et on va vraiment au fond de soi-même pour trouver les mots qui vont nous permettre d'exorciser toute cette souffrance. À partir de là, on voit que si on est capable de prendre ça avec de la dérision et non pas de faire du simple témoignage, à ce moment-là, on a pris de la hauteur. Et ça, je crois que ça a été le meilleur apprentissage dans l'écriture.
Donc ça, c'est le premier qui a permis d'expulser cette haine, cette colère et cette injustice. Et un travail avec votre fils. Donc j'imagine que ça a dû créer des liens encore plus forts entre vous. Et que ça, le deuxième livre, est-ce qu'il a été dans ce sens-là aussi ?
Tout à fait, mais... toujours avec encore plus de dérision, puisque quand on est sorti du premier, on était extrêmement content, on avait l'impression d'avoir retrouvé une liberté, d'avoir mis à nos pieds cette société qui broie les innocents, quelquefois, parce que c'est pas toujours le cas, bien entendu. Y a des coupables qui sont en prison, mais il y a aussi des innocents qui sont en prison. Alors, dans un deuxième temps... moi, j'ai, de mon côté, fait un travail de défense des innocents injustement accusés en faisant un blog sur Internet qui s'appelle le blog des innocents injustement accusés. Et puis, mon fils voulait encore travailler sur l'écriture. Et donc, on a fait un deuxième livre en partant d'une idée toute simple. Qu'est-ce que fait un innocent qui vient de subir une erreur judiciaire et qui se retrouve seul dans la société. Et à partir de là, on a traité un petit peu, sous forme de thriller, une histoire qui se passe dans le Bronx, à New York. Donc on est parti loin et puis on a aussi traité de la justice et de l'injustice.
Est-ce que votre fils, ça lui a donné aussi l'envie d'écrire autre chose que sur ce sujet grave ?
Tout à fait, oui, parce que après le deuxième livre qui est sorti en 2010, chacun a pris un petit peu sa route de manière séparée, parce que mon fils a repris les études et s'est lancé dans une thèse en droit fiscal international. Donc lui a refermé un petit peu les portes de l'imagination et s'est retrouvé plutôt dans un cadre technique parce qu'il voulait réussir dans ce domaine-là. Pour ma part, comme je m'approchais un petit peu de la retraite, j'avais au contraire envie d'ouvrir les volets parce que moi, j'avais été enfermé dans le cadre comptable, gestion, fiscalité pendant toute ma carrière.
Qui ne laisse pas vraiment choix à la créativité, libre cours à la créativité.
Exactement. Mais j'ai toujours été très heureux dans ce cadre-là et je n'ai jamais ressenti le besoin d'écrire auparavant. Mais là, j'avais envie de continuer cette aventure dans l'écriture et donc... comme on s'était plongé un petit peu dans l'espace avec une histoire dans le Bronx, cette fois-ci, j'avais envie d'aller dans le passé. Et je suis allé dans le passé en racontant une histoire au niveau du XVIe siècle qui se passe à Digne. Et comme il y avait justement les journées du patrimoine sur Digne, je me suis dit que ce serait bien de mettre aussi en valeur tout le patrimoine qui existe sur Digne. Donc c'est pour ça que dans ce roman, je parle de la cathédrale Saint-Jérôme, de Notre-Dame-du-Bourg, des catacombes. Je parle du monastère des Trinitaires. Donc des choses qui sont très intéressantes sur Digne.
Alors ça vous a demandé forcément de faire des recherches sur la ville de Digne et son passé.
Ah, bien sûr, oui, ouais. Ça c'était formidable. J'ai consulté les archives départementales, j'ai consulté des articles écrits dans la revue de la Société scientifique et littéraire. J'ai été visiter la crypte archéologique. J'ai été visiter la cathédrale Saint-Jérôme et puis j'ai fait des recherches aussi littéraires avec l'abbé Ferro, qui m'a bien servi aussi. Mmh. Et aussi quelqu'un que je remercie, je ne le connais pas, mais je remercie, c'est Guy Raymond, avec son livre qui s'appelle « Digne de A à Z ».
Avec tous les noms des rues et l'histoire des noms des rues.
Exactement. Puis de la véritable histoire sur le passé.
Oui.
Mais après, moi, j'ai utilisé ça et j'en ai fait un roman à ma sauce. Mmh.
Donc, un sacré travail. Combien de temps pour...
À peu près 2 ans en tout.
2 ans en tout.
Entre la recherche, bon, oui, la recherche et puis l'écriture.
Ça veut dire que quand vous êtes allé visiter, que ce soit la cathédrale Saint-Jérôme ou la crypte, vous étiez avec un petit carnet et un crayon ou un ordinateur portable.
Il y avait aussi, oui, des points de repère, des points de repère visuels. Et puis après, je replongeais dans les livres pour réétudier tout ça. Mais je ne veux pas trop m'accrocher à l'histoire. Donc, j'ai des impressions qui restent dans ma tête. Et ensuite, je les ressors par des mots. Et bien entendu... je greffe mon histoire là-dessus.
Alors, est-ce que donc ça se passe en février 1598, c'est ça ?
Février et l'année... Alors, ça commence en février 1598 et puis ça se termine le 31 décembre 1599. Je voulais que ça se termine juste au moment du passage du siècle. Et je voulais faire intervenir à l'intérieur Gassendi, mmh. puisque quand même c'est une personnalité au niveau de Digne, et que Gassendi, à cette époque-là, avait 9 ans à peu près, hein, puisqu'il est né en 1592. Donc il intervient dans le roman à un certain moment, et donc Gassendi est ici, présent, avec nous.
Est-ce que M. Gloigen, maire de Digne-les-Bains, est au courant de ce livre et de l'histoire?
Pour le moment, j'ai fait que faire passer un bulletin de souscription, puisque actuellement, je suis en période de souscription pour savoir à peu près le tirage que je vais faire et pas trop me tromper, pas avoir des stocks de bouquins dans ma cave, ça ne sert pas à grand-chose.
Et prévoyant, donc, le professeur de comptabilité gestion.
Professeur de gestion.
oui. ça ressort bien, c'est bien, c'est utile. Vous avez trouvé...
Donc la mairie pour le moment n'est pas au courant, à part le fait que j'ai prévenu les conseillers municipaux en leur faisant passer un bulletin de souscription, c'est tout. Donc j'attends une réponse.
Est-ce qu'on fait une pause musicale?
Ah oui,
déjà, hein, avant de passer, peut-être, je ne sais pas si vous voulez nous lire le prologue du livre, on va écouter La bête est revenue de Pierre Perret.
Ah oui, ça me tient à cœur.
Cette chanson que vous avez choisie.
Sait-on pourquoi un matin, cette bête s'est réveillée au milieu de pantins, qu'elle a tous émerveillé en proclamant partout. Haut et fort, nous mettrons l'étranger dehors. Puis cette ogresse aguicheuse fit des clones imitatifs, leurs tirades insidieuses convainquirent les naïfs qu'en suivant leur dictat xénophobe, on chasserait tous les microbes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. D'où cette bête a surgi, le ventre est encore fécond. Bertolt Brecht nous l'a dit, il connaissait la chanson, celle-là même qu'Hitler a tant aimé. C'est la valse des croix gammées. Car pour gagner quelques voix des nostalgiques de Pétain, c'est les juifs encore une fois que ces dangereux ariens brandiront comme un épouvantail. dans tout leur sinistre éventail. Attention, mon ami, je l'ai vu. Méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, braves gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin, instillant par ses chants de sirène la xénophobie et la haine. Laissons le soin aux lessives de laver plus blanc que blanc les couleurs enjolives, l'univers si différent. Refusons d'entrer dans cette ronde qui promet le meilleur des mondes. Attention, mon ami, je l'ai vu. Méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur dont les 100 000 bouches crachent le malheur. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. Car vois-tu, petit, je l'ai vu. La bête est revenue.
Eh bien voilà, on se retrouve avec notre invité aujourd'hui, Daniel Berthet, qui vient de, terminer d'écrire un livre, L'anneau de Saint-Jérôme, qui est avec nous jusqu'à 18h. On vient d'écouter Pierre Perret, une chanson que vous avez choisie pour aujourd'hui. Oui. Deux mots sur cette chanson.
Une belle chanson de Pierre Perret, qu'il a écrite il y a quelques années, qui est prémonitoire parce que la bête est en train de revenir. Elle est peut-être effectivement déjà revenue, elle n'est pas loin de nous. Et chaque matin, quand je me lève et que je me rase et que je me coiffe, je me dis, est-ce que moi, je ne suis pas tombé du côté de la bête? Et je pense que chacun doit réfléchir aux conséquences. Lorsque je vois que 20% des électeurs votent pour le Front National, j'ai un petit peu peur, même si ces gens ne se rendent pas toujours compte des risques qu'il y a d'avoir des extrêmes qui nous gouvernent. Même si ces extrêmes semblent vouloir donner des solutions simplistes à des problèmes qui sont complexes souvent. Et donc, il faut essayer de prendre un peu de recul et puis d'analyser les problèmes sans croire qu'on va avoir des solutions immédiates et toutes simples en, par exemple, pratiquant la xénophobie ou d'autres choses et en croyant que tout est de la faute des plus pauvres. Bien au contraire, il faut essayer de regarder en haut et de voir ce qui se passe en haut de la société et de se rendre compte qu'il y a des écarts de revenus qui sont de plus en plus grands entre une classe même moyenne qui devient de plus en plus pauvre et au contraire des milliardaires en haut qui gèrent les multinationales et qui sont là uniquement pour faire du fric sans s'occuper du confort du peuple. Donc, réfléchissons bien avant de déposer un bulletin de vote.
Sur les conséquences que ça peut avoir.
Sur ces conséquences-là.
Merci pour
C'était juste un petit encart.
Ça permet de bien situer aussi l'homme qui est en vous, qui se bat aussi.
Oui, surtout que je reviens un petit peu au roman.
Oui.
En écrivant ce roman, j'ai plongé un petit peu dans le passé et donc je me rends compte que l'âme humaine est constante.
Parce que c'est la chasse aux sorcières. Hein,
voilà, c'est la chasse aux sorcières dans le roman. Et je dédie ce roman à toutes les sorcières d'hier, d'aujourd'hui, et de demain, parce que les sorcières, elles existent toujours.
On n'a pas fini de les exécuter.
Et aujourd'hui, on constate qu'on est en pleine guerre de religion, comme au XVIe siècle. C'est quand même bizarre. Et ensuite, les croisades, elles existent toujours. La torture existe toujours. Le non-droit pour les plus pauvres existe toujours. Donc, il faut se méfier de tout ça. L'âme humaine, elle est constante, même s'il y a beaucoup de progrès techniques. On constate que il est difficile d'évoluer au niveau de l'esprit humain.
On constate malheureusement que la voie de développement, on ne l'a pas encore trop amorcée.
Oui, tout à fait.
Au niveau de l'âme humaine. Oui,
oui. Oui. Oui.
Beaucoup de progrès techniques pour beaucoup de massacres.
On a du confort, c'est certain, mais en fait, il y a aussi du massacre. Le massacre, il existe toujours à toutes les époques. On le retrouve à toutes les époques et demain, on le retrouvera aussi. Donc, il faut essayer de prendre un peu de recul et puis de se dire qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes avec des solutions simplistes. C'est pour ça que je voulais passer cette chanson de Pierre Perret.
La bête est revenue.
La bête est revenue.
On va continuer. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre livre, bien sûr, vous avez créé un blog. L'anneau de Saint-Jérôme, où on peut trouver le prologue.
Le prologue, puis quelques extraits du livre sur les différents bâtiments qu'on peut rencontrer sur Digne, donc sur Notre-Dame-du-Bourg, sur la cathédrale Saint-Jérôme, bien entendu, qui est le centre du roman, et puis sur d'autres, par exemple la crypte archéologique. Et je donne à chaque fois quelques indications concernant l'époque, et puis je donne un extrait du roman. Et le roman donc commence en février 1598, au cours d'un hiver terrible. Et je ne peux pas lire le prologue ni un extrait ici, parce que d'abord, je n'ai pas le livre sous la main, mais les auditeurs peuvent lire des extraits sur ce blog. Il y a quelques photos un peu amusantes sur le blog aussi.
Très bien. Alors, on rappelle, ça va peut-être nous amener à parler de la façon dont vous voulez vendre ce livre, puisque vous avez fait appel à Étudiants Solidaires, qui est une association toute jeune.
Oui, tout à fait. Je suis un petit peu à l'origine, parce que comme je suis professeur dans une classe de BTS comptabilité gestion, j'ai trouvé que ce serait bien d'associer mes étudiants à ce travail et en même temps de leur faire découvrir aussi des aspects de la solidarité. Et donc on s'est mis en contact avec le Secours Populaire, et sur chaque livre vendu, 15 euros, on aura 5 euros reversés au Secours Populaire, 1,50 € à l'association Étudiants Solidaires, puisque s'ils font un travail, ça mérite salaire. Mmh. Et donc le reste sera pour payer les différents frais. Je ne crois pas que j'aurai beaucoup de droits d'auteur qui me reviendront après ça. Mais l'essentiel, c'est de faire un travail en commun.
Donc encore un peu de votre humanité qui transparaît à travers cette action. Les étudiants solidaires étaient invités à venir, mais ils ne peuvent pas, voilà, l'association.
On devait faire une...
Alors comment marche cette association
Alors c'est une association donc, qui est toute récente, qui a été créée au mois de septembre, qui a son lieu de résidence au pôle social à Digne, et qui va monter des projets pour accompagner certains événements. Et par exemple, cette année, pour la première action, comme j'étais un peu à l'initiative, je leur ai proposé cette action pour diffuser mon roman. Ensuite, j'ai pris contact avec d'autres étudiants qui ont des projets justement avec le Secours Populaire. Et ces étudiants vont faire aussi un travail de rapprochement entre le Secours Populaire et puis les jeunes. C'est ce que demandait le Secours Populaire. Et ils ont un certain nombre d'actions à faire. Et on va agréger notre projet qu'on avait au départ avec mon livre avec leur projet à eux. Donc eux, ce sont des étudiants de l'IUT GACO, ils vont faire quelques événements pour faire connaître le Secours Populaire. Et puis en particulier, on envisage de faire aussi une conférence débat dans le courant du mois de février ou de mars sur la culture solidaire, où on invitera des bibliothécaires ou d'autres associations qui font des efforts pour se rapprocher de publics en difficulté et leur apporter une possibilité de culture. Je pense par exemple à l'hôpital. on a un service de bibliothèque à l'hôpital et il y a des bénévoles qui font de gros efforts toutes les semaines pour apporter des livres aux gens qui sont malades. Je pense aussi qu'il y a une association qui s'appelle la Bibliothèque Sonore, donc, qui fait lire des livres à des bénévoles pour pouvoir les faire entendre à des non-voyants. Donc des choses comme ça, je trouve que ça, c'est formidable.
Ouais.
Et donc je tiens à les saluer. Voilà. Et il y a peut-être d'autres possibilités de rapprocher la culture de gens qui sont en difficulté et des jeunes aussi, parce que les jeunes aussi ont souvent des problèmes. Alors je pense aussi à ça, c'est qu'il y a des gens, par exemple, qui passent au centre culturel en off et qui n'ont pas beaucoup de public. Et peut-être qu'en travaillant avec les étudiants solidaires et d'autres associations à caractère humanitaire, ce serait peut-être possible de faire des événements qui ont un peu plus de public. Donc voilà, des idées.
Des idées, des bonnes idées.
Des bonnes idées, je pense, pour essayer de rapprocher les jeunes, les associations qui s'occupent d'humanité, d'humanitaire.
Est-ce que vous savez si, je crois que le Téléthon a... le Cœur Lavande a contacté l'association étudiants solidaires, justement.
Le Téléthon a contacté étudiants solidaires, mais comme l'association venait d'être créée, il n'y a pas eu un travail de préparation ensemble. Mais j'en profite, puisque je suis là, pour dire que concernant le Téléthon, il y a encore deux ou trois soirées intéressantes. Il y a une soirée demain soir au Centre culturel sur la poésie.
Oui.
Avec Guy Jean-Pierre, Jacques Beck et Claude Brown. Donc à 19h au Centre culturel. Ensuite, vendredi 7 décembre de 19h à 22h à la salle de l'Ermitage, il y a une soirée dansante. Et puis au Centre culturel René Char, samedi 8 décembre à 20h, je crois, oui c'est ça, une soirée jazz qui est très intéressante avec le groupe Garo Swing et... qui, je crois, se rapproche de Claude Nougaro.
Oui, c'est d'après le répertoire de Claude Nougaro. Alors ça, c'est le samedi 8 décembre.
Il faut qu'on fasse le plein au Centre culturel.
Centre culturel.
Ouais. Et puis encore, ça continue encore le dimanche 9 décembre. Là, il faut vraiment tirer un grand coup de chapeau à Jean Tripodi et puis à l'association Cœur Lavande.
Cœur Lavande pour son implication.
C'est un travail incroyable. Et peut-être que l'année prochaine, justement, l'association étudiants solidaires pourra... venir travailler aussi avec cette association.
Alors dimanche 9, qu'est-ce qu'il y a ?
Alors dimanche 9 décembre, le Téléthon sera présent au centre-ville dans le cadre de la fête de l'âne gris. Et puis le mercredi 12 décembre, pour terminer, il y aura le tournoi des magiciens qui se passera, alors je ne sais pas exactement où.
Bon, on en reparlera certainement sur Fréquence Mistral. Bon, eh bien, merci donc pour cette grande parenthèse. Est-ce que on va peut-être passer une chanson pour ensuite parler de la Palestine.
Une chanson palestinienne.
Tout de suite ou d'abord vous aviez prévu une chanson sur Arthur Rimbaud par Patrice Saunier.
On terminera par Arthur Rimbaud. D'accord. Je préfère qu'on parle d'abord de la Palestine.
لا تحزن بعون الله يهون الصاف
يهون الصاف
لا تحزن معك الله يا أعظم شعب لا تحزن بعون الله يهون الصاف
يهون الصاف
ما تبكي يا جنين على حالي وحقك ترفعي راسك بطالي خلي الجبن يشوفوا أطفالك ما سلموا للخوف بعز الرعد بعز الرعد
بعز الرعد
لا تحزن معك الله يا أعظم شعب
يا أعظم شعب
لا تحزن بعون الله يهون الصعب
يطفى الأحجار علم الفجار كيف النار ما بتنهار كيف الكرام بتنصاد وإن الموت في دا الأوطان مش إرهاب يطفى الأحجار علم الفجار كيف النار ما بتنهار كيف الكرام بتنصاد وإن الموت في دا الأوطان مش إرهاب وإن الإرهاب المحتل يكبر ويتبع ونفس الدرب نفس الدرب
نفس الدرب
لا تحزن معاك الله يا أعظم شعب
يا أعظم شعب
لا تحزن بعون حالف ليكبر ويتبع بنفس الدرب نفس الدرب
نفس الدرب
لا تحزن معك الله يا أعظم شعب,
شعب
لا تحزن دعون الله يهون الصعب,
يهون الصعب
لا تحزن معك الله يا أعظم شعب,
شعب
لا تحزن دعون الله يهون الصعب,
يهون الصعب
لا تبكي يا جنين على حال راسك يا طالب لا تبكي يا فلسطين على حال وارفع راسك يا طالب وخلي الجبن يشوفوا أطفالك ما سلموا للخوف بعز الرعب بعز الرعب
بعز الرعب.
Nous venons d'écouter une chanson sur la Palestine. On retrouve Daniel Berthet qui est avec nous pour cette émission spéciale Passionnément Vôtre. Daniel Berthet qui vient d'écrire un livre L'Anneau de Saint-Jérôme, qui est venu nous en parler, mais également de son soutien pour la Palestine.
Oui, merci de me donner la parole. J'étais content de passer une chanson palestinienne parce que je fais partie de l'association France-Palestine pour l'amitié entre les Palestiniens et puis nous-mêmes. Et on a eu une très bonne nouvelle dernièrement, puisque cette bonne nouvelle, c'est que la Palestine a obtenu à une grande majorité le statut d'État observateur à l'ONU, avec 138 pays qui ont voté pour, une trentaine qui se sont abstenus, et puis seulement 9 qui ont voté contre. C'est une grande victoire pour la Palestine. C'est une victoire qui était attendue depuis très longtemps. Et ça fait 65 ans que les Palestiniens attendent d'avoir un État. Ça fait 20 ans qu'il y a des négociations qui sont sans cesse repoussées et que pendant ce temps, l'État d'Israël colonise de plus en plus, fait des implantations de colonies en Cisjordanie et qui aujourd'hui même veut continuer cette colonisation, alors que toute la communauté internationale soutient aujourd'hui la Palestine dans ses droits. Et nous sommes tous en devoir de faire respecter le droit international dans ce pays.
Donc, alors, vous vouliez nous parler de l'association, enfin, c'est une fédération France-Palestine
solidaire. Oui, c'est une association qui est nationale et qui a des groupes locaux dans chaque département. Donc, personnellement, je suis trésorier dans ce groupe local de AFPS 04 qui a été créé en 2002. Nous sommes très actifs et nous, actuellement, je tiens à le dire, il y aura le vendredi 14 décembre 2012 à Sainte-Tulle un film qui s'appelle « Vers où Israël ?» qui est de Camille Clavel et le réalisateur sera sur place pour débattre après la projection du film. Donc j'invite tous ceux qui sont sensibilisés par le problème de la Palestine à venir au théâtre Henri Fluchère le vendredi 14 décembre à 20h.
Alors j'ai remarqué que c'est souvent là-bas que se font les projections. Pourquoi pas à Digne ?
Si, il y a eu des projections à Digne. La dernière projection date du 22 novembre qui s'est passée au Ciné d'Étoile dans le cadre de la semaine Solidarité Internationale.
Il y avait plusieurs choses en même temps.
Voilà, il y a eu beaucoup de choses au mois de novembre. Donc effectivement, la dernière représentation, c'était au Ciné d'Étoile. Il y avait d'ailleurs beaucoup de monde. Il y avait un débat sur l'olivier en Palestine avec Thomas Cazeles qui a travaillé en Palestine pendant 7 ou 8 ans, je crois, comme coopérant. Et donc, il nous a présenté le problème de la Palestine au niveau des oliviers et bien sûr au niveau des problèmes de l'eau et au niveau aussi de l'implantation, des implantations israéliennes, de la colonisation israélienne, disons plutôt, et de la difficulté de vivre pour le peuple palestinien. Un peuple qui a toujours le sourire, qui résiste dans le sourire et dans la dérision. Et je trouve que c'est formidable de rencontrer ces gens qui sont capables, dans la répression constante, de trouver toujours le sourire. Et c'est pour ça que je fais aussi le rapprochement avec ce dont on parlait au début. Lorsqu'on subit lorsqu'on est victime d'une erreur judiciaire, il n'y a que la dérision qui peut nous permettre de prendre de la hauteur. Et je crois que le peuple palestinien l'a compris depuis longtemps et n'attend plus rien de la communauté internationale. C'est ça qui est dommage. Ce peuple sait qu'il doit se battre seul contre l'oppresseur. Et c'est extrêmement difficile parce que le rapport de force est quand même sans commune mesure entre les avions israéliens et puis les petites roquettes palestiniennes. Bien que ça fasse des morts des deux côtés. Mais quand on a 5 morts du côté israélien, on en a 150 du côté palestinien. On a vu ce qui s'est passé à Gaza ces derniers temps. Voilà. Je précise aussi que cette association
France-Palestine
fait beaucoup d'événements en cours d'année, en particulier la Journée de la Terre le 29 mars chaque année. Et donc des événements qui se passent soit à Manosque, soit à Sainte-Tulle, soit à Digne, soit à Fort-Calquier ou à Château-Arnoux. Voilà.
Il y avait le trio Joubran.
Il y avait le trio Joubran qui était magnifique, effectivement, et qui a fait le plein d'ailleurs au centre culturel. Je crois que quand il y a des événements importants, les gens se déplacent. C'est important de le dire. Et il y a des problèmes pour lesquels il faut se mobiliser.
Est-ce qu'on revient, on revient à votre livre ?
Oui.
Oui. Alors, dites-moi tout sur ce livre, L'anneau de Saint-Jérôme. Ouais.
Bien, je vais vous dire que la première phrase que j'ai mise en exergue, c'est une citation d'Albert Camus, parce que j'aime beaucoup Albert Camus. Et dans L'homme révolté, il écrivait « L'important n'est pas de remonter à la racine des choses, mais le monde étant ce qu'il est, de savoir comment s'y conduire ». Et je trouve que dans le livre, c'est ce que j'ai voulu démontrer, c'est que je raconte une histoire, mais dans cette histoire, je cherche à trouver la solution de l'individu par rapport à la société. Et lorsque un individu, que ce soit une sorcière au XVIe siècle ou que ce soit un accusé innocent aujourd'hui ou demain, que ce soit un peuple opprimé, eh bien, l'individu doit se faufiler dans les méandres de la société pour arriver à garder l'esprit haut, la tête haute, et puis faire face aux difficultés. Donc c'est toute la philosophie du roman et c'est toute ma philosophie dans la vie.
On va rappeler comment faire pour souscrire à ce roman. Il faut aller sur le blog ou il y a une autre façon
oui,
non, de
alors,
faire.
Alors il y a plusieurs manières de souscrire.
Ceux qui n'ont pas Internet, parce qu'il voilà. y en a encore.
Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui.
Soit ça ne passe
en
pas
en
chez eux.
Il y en a encore
eux,
qui sont au Minitel. Oui. C'est ça. Ah, c'est au Minitel, on ne peut pas le trouver, ouais, ça c'était pas possible. Bon, alors il y a le blog sur Internet en tapant à notre Saint-Jérôme sur Google et on tombe sur le blog. Mm-hmm. Il y a la possibilité de prendre des bons de souscription au niveau de la médiathèque.
Ah,
qui sont disponibles là-bas sur la table d'entrée à la médiathèque. Dans certaines boulangeries aussi, on trouve des bons de souscription. On a fait pas mal de courriers. Et on a écrit à nos élus pour qu'ils souscrivent, qu'ils nous fassent preuve d'un peu de solidarité avec des associations qui méritent notre soutien. C'est pas mm-hmm. tellement pour vendre. Je n'ai aucun objectif lucratif dans ce domaine. C'est pas parce que je vais vendre 200 livres ou 300 livres que je vais m'enrichir. Donc, puis j'ai un salaire, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Donc, c'est vraiment pour le plaisir d'écrire, mais pour le plaisir de servir une cause. Donc, il y a cette possibilité. Autrement, on peut s'adresser à l'association qui édite le livre que je préside, qui s'appelle Carielb, K-A-R-I-E-L-B.
Cariel B.
Dont l'adresse est 4 chemin des Rouquets, 04000 Digne-les-Bains.
Très bien, Digne-les-Bains, Digne sans S. On voit encore que c'est écrit souvent avec des avec AS. Ah, oui. Non,
monsieur le maire va pas être
c'est
content.
Terrible.
C'est terrible.
Qu'est-ce que je voulais vous demander? Dans quel état on se trouve quand on a terminé un livre? Est-ce qu'on a envie tout de suite on est encore, ça résonne encore ce qu'on a,
oui, on a envie
toute
d'en
l'histoire
parler.
Est-ce que...
on a peur parce que quand on est en auto-édition tant qu'on est dans l'écriture du livre c'est un plaisir parce que c'est un chantier et donc on construit quelquefois
ça apprend à être ordonné
voilà et puis on a la page blanche l'angoisse de la page blanche on ne sait pas ce qu'on va faire devant la page blanche mais c'est une aventure formidable donc on est avec ces personnages. Faut reconnaître que quelquefois on vit la nuit avec les personnages, quelquefois les personnages nous poussent dans nos retranchements, on est surpris par ce qu'on écrit.
Qui est fabuleux, c'est la créativité.
C'est extraordinaire.
On pense quelquefois une histoire et puis un personnage se révèle, nous surprendre.
À tous les personnages me surprennent, oui. Parce que maintenant que j'ai un tout petit peu de technique, je ne vais pas parler d'expérience, mais j'ai compris quelque chose, c'est que quand on veut écrire un roman, il faut avoir un fil conducteur. Et on sait par où on va commencer, on sait où on va finir. Mais on ne sait pas ce qu'il y a au milieu. Mmh. Et donc, on part avec un personnage ou deux, et puis on les laisse vivre, et l'histoire se forme. Et moi, chaque fois qu'il y a une page blanche, c'est très simple, j'invente un nouveau personnage. Comme ça, il va m'apprendre quelque chose.
S'il y a beaucoup de personnages, on saura que vous avez...
Il y a 240 pages, il y a peut-être 240 personnages. moi, j'ai la page blanche au début d'un chapitre. Uh-huh. Quand j'ai terminé un chapitre, chaque chapitre est une histoire pour moi. Et donc, quand j'ai terminé le chapitre, il faut que je commence une nouvelle histoire, mais dans le prolongement de la suite, de ce qui a précédé. Uh-huh. Et donc, je cherche. Et souvent, je suis obligé de faire intervenir un nouveau personnage ou un nouveau lieu ou une nouvelle histoire, puis que je raccroche à l'ancienne histoire. Et donc, quand je vis ça, c'est une aventure. C'est-à-dire, je suis le voyageur immobile. Hein. Je suis dans mes personnages et ils évoluent tout seuls. Et ils m'aident. Alors après, bien sûr, il faut traduire ça avec des mots. C'est pas toujours facile. Parce que quand on est dans le rêve, c'est possible. Puis après, quand on est à le traduire par des mots, c'est plus difficile. Et puis après, le livre, une fois qu'il est fait, se pose le problème de la diffusion. Les écrivains, eux, ont la chance d'avoir des éditeurs. Donc, ils donnent ça à l'éditeur et l'éditeur s'occupe de la diffusion. Lorsqu'on est auto-éditeur, c'est-à-dire qu'on fait appel à aucun service, eh bien, on se pose la question comment le diffuser. Parce que c'est être prétentieux de vendre un livre. On est toujours gêné. C'est pour ça que je préfère passer par le côté solidaire. Je me sens plus à l'aise. Donc ici, je cherche à présenter le livre, qui sera bien sûr critiqué, c'est normal. C'est pas du tout l'objectif de faire quelque chose de parfait, loin de là. Et puis après, on partira dans une nouvelle aventure.
Alors est-ce que le fait d'écrire comme ça, ça vous êtes inspiré de personnages de Digne? Est-ce que ça vous a demandé d'être plus observateur des gens? Est-ce qu'on parce qu'on a beaucoup tellement de figures un peu hors du commun dans Digne, quand même, quand on regarde bien. Il y a des personnages, il y a de vrais personnages.
Oui, c'est vrai. Oui. Oui, mais moi, c'est pas des personnages précis que je vois dans la rue. C'est plutôt des caractères de personnages. Et donc, je me sers de ça, oui, de certains caractères de personnages.
Pour après habiller un personnage.
Voilà, après je l'habille, mais je ne peux pas dire que je décris telle personne. Ça, c'est faux. Je ne suis pas un biographe, pas du tout. Donc, on a quelques impressions qu'on retient en fonction de notre sensibilité. Et puis, à partir de là, eh bien, on construit un nouveau personnage. Alors, il y a quelques traits qui se retrouvent, effectivement, mais personne ne peut se reconnaître dans mes personnages. Ce n'est pas possible.
Quelle serait pour vous la plus belle récompense de ce livre? Est-ce que si quelqu'un vous demandait à le mettre en film, ça vous ferait plaisir?
La première récompense, ce serait que le Secours Populaire gagne beaucoup d'argent avec ce livre.
D'accord.
Ça, c'est la première récompense. Ça voudrait dire d'abord que j'apporte une solidarité au niveau d'une association humanitaire. Je regarderai que ça. Ça me suffit. Après, bien sûr, si on pouvait mettre ça soit sous forme théâtrale, soit sous forme de son et lumière, soit sous forme de film, ce serait extraordinaire, bien entendu. Mais je n'ai pas cette ambition, je n'ai pas cette prétention, loin de là.
Pas encore.
Non, pas encore.
Vous avez déjà une idée pour un prochain livre ou il faut d'abord digérer celui-ci?
J'ai plusieurs idées, mais c'est des secrets. Ça. C'est comme une femme qui est enceinte et qui porte un bébé, mais qui ne veut pas le dire. Et donc, je crois que quand on a un livre dans la tête, c'est un peu ça. Parce que d'abord, on commence à écrire et puis on ne sait pas jusqu'où on va aller. Parce qu'il faut beaucoup de courage quand même pour écrire. C'est pas facile de se mettre à sa table et puis d'essayer d'écrire. Heureusement, moi, j'ai l'ordinateur parce que je travaille qu'avec du traitement de texte, parce que je recommence tellement de fois mes phrases. J'admire toujours les écrivains qui écrivent sur du papier à l'ancienne et qui sont capables de très peu raturer. Ça, c'est pas mon cas, parce que comme je suis pas écrivain, je suis obligé de recommencer X fois mon travail.
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter avant de se quitter? On a encore quelques minutes.
Eh bien, moi, je voudrais passer une chanson encore qui me plaît beaucoup et qui est un artiste local. Et c'est pour ça que je remercie Fréquence Mistral, parce qu'elle permet de mettre en avant des locaux sur des travaux qu'ils font. Et moi, je prends plaisir à réécouter des émissions de Fréquence Mistral, parce que je sais que ce sont des gens du terroir qui parlent de leur travail ici et que finalement, on a peut-être pas besoin de ces grands médias qui nous parlent de Paris. Et d'ailleurs, de temps en temps, il vaut mieux revenir travailler ensemble sur le terrain. Et donc, ici, je voudrais mettre en valeur un ami qui est Patrice Saunier, qui chante merveilleusement bien et puis surtout qui est un fou de Rimbaud, tout le monde le sait à Digne.
Passionné, donc, plus, il a été deux fois invité ici et,
oui.
et une troisième encore avec une autre émission.
Je l'ai écouté d'ailleurs, et ça me fait plaisir encore de le repasser une nouvelle fois dans un texte de Rimbaud que je trouve magnifique, mis en musique de manière formidable par Alain Solaire, son ami, et c'est la chanson de La plus haute tour, par Patrice Saunier. Écoutons.
On l'écoute tout de suite. Je vais le remettre dans de bonnes conditions parce que c'est terrible de rater le départ. Voilà, c'est maintenant.
Oisive jeunesse a tout asservi. Par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Je me suis dit laisse et qu'on ne te voie, et sans la promesse des plus hautes joies, que rien ne t'arrête, auguste retraite. J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie, crainteuse et souffrance, aux cieux sont partis, et la soif malsaine obscurcit mes veines. Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Ainsi la prairie, à l'oubli livrée, grandissait fleurie, dansant ses dix frais au bourdon farouche de cent sales mouches. Ami le veuvage de la si pauvre âme, qui n'a que l'image de la Notre-Dame, est-ce que l'on prie la Vierge Marie? Oisive jeunesse a tout asservi. Par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Que le temps vienne où les cœurs s'éprennent.
Voilà, on vient d'écouter donc chanson de La plus haute tour du texte d'Arthur Rimbaud, mise en musique par Patrice, enfin chantée par Arthur. Oui. Arthur Saunier. Il sera content d'entendre.
Arthur Saunier.
Patrice fils, Saunier, oui.
Non, je voudrais dire merci à Patrice pour cette excellente chanson et une belle mise en musique de Alain Solaire. Et je dis à Patrice un petit message simplement, parce que c'est un ami. Quand est-ce que tu nous sors ton livre sur Rimbaud ? Nous l'attendons tous avec impatience.
Un livre, alors.
Un livre et je crois un spectacle sur Rimbaud.
Un spectacle, oui, toujours, encore et toujours. Mais un livre, je ne savais pas.
Je crois qu'il prépare un livre. Il va nous le dire plus tard, mais il nous fait la surprise.
D'accord. Daniel Berthet, c'est déjà l'heure de nous quitter.
C'est dommage.
Mais vous reviendrez avec la publicité que vous avez fait pour Fréquence Mistral. Je crois qu'on vous invite quand vous voulez.
Ah bon, ça c'est gentil, merci. Mais mettez une pétition à l'entrée pour une subvention pour Fréquence Mistral et tous les invités à Fréquence Mistral devront la signer avant de quitter le studio.
Merci Daniel. Très bonne soirée à tous et à bientôt.
Thank you. στο καβό σίδερο και το χεράκι δώσ' μου. Έλα στο καβό σίδερο και το χεράκι δώσ' μου. Τα σεριά νήσαμε μαζί στη γειτονιέ του κόσμου. Τα σεριά νήσαμε μαζί στη γειτονιέ του κόσμου.